Prenez la parole avec votre émission L'Invité d'RTVFM.
Et bonjour à tous et toutes, bienvenue sur RTVFM sur le 102.2. Bienvenue pour cette toute nouvelle émission qui s'intitule L'Invité d'RTVFM. Et justement, je suis avec deux invités sur le plateau d'RTVFM, avec Jean-François Clapeau qui est le président du Cercle Républicain de Mazan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et je suis avec Louis Rama qui est le directeur artistique de Bonheur de Lecture. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompé, tout va bien ?
Ça va, c'est très bien.
Bon, alors on va commencer par vous, Jean-François Clapeau, si vous voulez bien. On va commencer à parler déjà de Cercle Républicain, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce que c'est Cercle Républicain ?
Alors, le Cercle Républicain de Mazan a une filiation des Cercles Républicains qui sont nés en 1843, puisqu'on trouve des traces de Cercle Républicain, de Cercle à Mazan en 1843. Bon, sous sa forme actuelle, il est né en 1971. Et on s'inscrit dans la promotion et la défense des valeurs de la République. Et donc, nous faisons des actions auprès des jeunes, au niveau des écoles primaires, des jeunes aussi adolescents, à savoir, nous avons fait des conférences et des expositions avec leur aide à l'Office de tourisme de Mazan. Et nous avons emmené, par exemple, aussi les jeunes ados au Conseil général pour leur faire voir ce qu'est l'institution, car les jeunes ne connaissent pas toujours bien le fonctionnement même de la République, au niveau déjà de la commune, du département, de la région, voire de l'institution. Et cela s'est traduit par quelque chose que nous luttons fortement au Cercle Républicain, qui est l'abstention des jeunes aux élections. Donc dans cette action de civisme aussi.
En tout cas, merci Jean-François Clapeau. On va revenir vers vous dans un instant. Et puis maintenant, on va demander la même question à Louis Rama. Qui êtes-vous ? On attend vos explications et une petite présentation de votre part.
Voilà, je suis là donc pour représenter Bonheur de Lecture. Bonheur de Lecture est une association loi 1901 qui anime donc une compagnie de théâtre qui est complètement spécialisée dans la lecture de ce qu'on appelle, nous, il y aurait à expliquer, les grands textes, c'est-à-dire les textes les plus fondamentaux, des textes qui appartiennent à notre culture depuis toujours, mais qui continuent de se développer aujourd'hui. Donc nous essayons de faire passer auprès du public, nous faisons passer auprès du public donc des textes ambitieux, depuis Homère jusqu'à des grands auteurs contemporains, toujours dans des lectures-spectacles qui ont toujours au minimum un comédien lecteur et un musicien improvisateur. Voilà. Et c'est cette conjugaison du comédien, de la voix du comédien et de la musique du musicien qui rendent sensibles les textes et font pour les rendre, pour que les gens les reçoivent de manière extrêmement vive, extrêmement forte.
Alors, Jean-François Clapeau, on le sait, vous êtes donc au Cercle Républicain à Mazan. Par contre, je ne vous ai pas posé la question, vous êtes situé à quel endroit ?
Voilà, nous sommes principalement situés, implantés à Carpentras depuis 20 ans. C'est notre 20e année de travail et de rayonnement autour de Carpentras.
Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de Albert Cohen, Ô vous, frères humains, qui ce sera prochainement, ce sera le 10 février prochain à 17h à la Boiserie.
Oui, 10 février à la Boiserie à 17h, oui. Et nous accueillerons aussi, dans le cadre de cette lecture, les associations que sont la Ligue des droits de l'homme, le MRAP et Amnesty International, qui nous font l'amitié de venir aussi échanger avec le public par leur présence.
Pour expliquer brièvement, ce récit parle donc du racisme et de l'antisémitisme, c'est bien ça ?
Oui, c'est un texte très fort que personnellement j'avais entendu au camp des Mille il y a quelques années, et j'ai voulu et j'ai proposé donc à mes collègues du Cercle Républicain cette lecture, et bon, ça a pris un peu de temps, et puis l'opportunité de disposer de la Boiserie a fait que ce texte sera diffusé là, et je souligne quand même que cette action s'inscrit dans la prévention du racisme et de l'antisémitisme, et nous sommes à quelques semaines de la semaine justement contre le racisme et l'antisémitisme, et on peut donc l'inscrire dans cette action et rappeler quand même que le texte, et on le verra tout à l'heure avec Louis Rama, le texte vient quand même, je dirais malheureusement et douloureusement en écho à l'actualité de ces jours-ci, où un jeune garçon de 8 ans s'est fait tabasser par des ados tout simplement parce qu'il était juif. Et donc, ça vraiment, ça vient en écho, malheureusement, je dirais, au texte que va présenter Louis Rama le 10 février.
L'auteur, il s'appelle Albert Cohen, et c'était en 1968, c'est bien ça, monsieur Rama?
Alors, ce qui est sorti, l'œuvre d'Albert Cohen, qui a été publiée en 1968 et qui a été un événement considérable, c'est un énorme roman intitulé
Belle du Seigneur.
Belle du Seigneur. Hein. Ce n'est pas du tout le livre dont je parle ici. Hein. Ce que nous allons lire, c'est Ô vous, frères humains, qui est un livre minuscule, qui est un livre qui fait 110 pages maximum, voyez-vous. Alors que Belle du Seigneur est un roman colossal de plus de 1000 pages, qui a été vraiment un événement et qui a été publié en 68. Ô vous, frères humains, lui, a été publié en 72, si je me rappelle bien.
Oui, 72, oui.
Et justement, pourquoi vous avez choisi Ô vous, fruits humains, plutôt que Belle du Seigneur?
Il y a un rapport, mais c'est un rapport complexe. Hein. Écoutez, Belle du Seigneur, on s'aventure là dans
mais c'est bien de parler de l'œuvre.
Si vous voulez,
c'est bien.
Je voudrais aussi parler aussi de qui est Albert Cohen.
Mais je vous en prie, vous êtes
mais on
ça.
Parle de Belle du Seigneur, puisque vous le demandez, allons-y, fonçons. Belle du Seigneur, il y a des gens qui ont dit que c'était le plus grand roman d'amour du XXe siècle. Hein. Une sorte d'amour romantique avec deux personnages qui sont embarqués dans une histoire absolument fabuleuse, mais qui est aussi une histoire tragique, des amours romantiques qui vont se finir très très mal parce qu'ils se ferment l'un sur l'autre et ils ne vont jamais parvenir à une sorte de véritable épanouissement en communication avec tous les autres. Mais ce roman extraordinairement à la fois simple et complexe et riche, avec aussi des parties complètement satiriques sur les grands fonctionnaires, les institutions internationales, etc., a aussi en sous-jacence, en dessous de lui, tout un parcours sur l'histoire de la montée du nazisme dans les années 30, voyez, bon, et toute l'histoire, et on ne le sait pas, mais au cœur de Belle du Seigneur, il y avait aussi ce que Albert Cohen va révéler quelques années plus tard, donc 68 Belle du Seigneur, en 72, il écrit « Ô vous, frères humains », et il va soudain dire en très peu de mots, ben voilà, en dessous de Belle du Seigneur, il y avait ce drame que j'avais vécu quand j'avais 10 ans. Et alors là, il faut peut-être revenir sur Albert Cohen.
Oui, justement, qui est Albert Cohen, vous le connaissez
alors,
bien.
Albert Cohen est un très grand écrivain, mais pas seulement. Alors, prenons les choses dans l'ordre, si vous voulez. C'est un petit immigré à Marseille, arrivé à Marseille en l'année 1900. Il était né, lui, en Grèce, à Corfou, qui est une des îles grecques. Si vous voulez, c'est l'île de Dully, c'est l'île d'Ithaque, là-bas en Méditerranée. Et ses parents, il était né en 1895, et quand il a eu 5 ans, ses parents sont venus, ont pris le bateau et sont venus s'installer à Marseille. Donc il fait partie de ces flots d'immigrés arrivés de toute la Méditerranée à Marseille. Il y a eu des Grecs, il y a eu des Arméniens, il y a eu des Algériens, il y a eu des gens du monde entier qui sont passés par Marseille. Et il est donc dans cette figure-là. Hein. Et il commence avec sa famille, ils sont installés à Marseille et il va à l'école. Et il est plein d'admiration pour la France et il est heureux de découvrir la langue française. Et il fait tout ce qu'il peut pour être un petit Français. Et voilà qu'un jour, quand il a 10 ans, en sortant de l'école, il voit tout un attroupement en haut de la Canebière là-bas. Et il s'approche et puis il veut comprendre ce que c'est. Et puis ça l'intéresse. Et il va découvrir un camelot qui présente donc un petit objet, qui présente un détacheur universel. Et le petit gosse, plein d'admiration, se dit « Ah !» Et puis c'était le jour de ses 10 ans, le jour de son anniversaire. « Je vais en acheter, je rapporterai ça à maman, elle sera contente. Il y aura plus de tâches, la vie sera plus facile. » Voilà. Et au moment où il va acheter le bâton, le camelot va lui pointer le doigt sur lui et lui dire « Ah, mais toi, je te connais, ouais, je te vois, t'es un sale juif, hein, voilà, va voir à Jérusalem si j'y suis. » Hein. Et il tient un discours qui est exactement le discours qu'on entend depuis des années et des années, disant « Ah, vous êtes venu manger le pain des Français, etc. etc. »
Surtout quand on entend des paroles comme ça marque à vie.
Voilà. Et alors ce petit garçon, ce petit garçon est complètement éberlué parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Il ne sait pas qu'on peut le désigner comme juif. Il est stigmatisé, on met sur lui une étiquette. Hein, et on lui dit, t'es un sale juif, va t'en voir ailleurs, t'es pas avec nous. Hein. Et il est exclu. Voilà. Et le choc est tel qu'il va partir dans la ville de Marseille. Et Cohen parle de Marseille avec beaucoup d'amour, beaucoup de beauté. Et il aime Marseille. Et dit, voilà, ben, je suis parti dans les rues et je ne savais pas que faire. Je ne pouvais plus rentrer chez lui parce qu'il était un maudit. Qu'est-ce qu'il allait faire, voilà. Et donc, le livre raconte toute cette journée.
Mais justement, vous allez nous lire quelques passages dans un instant, juste après la pause musicale. Donc, vous restez bien avec nous et vous restez bien également avec nous, chers auditeurs. Vous êtes dans votre toute nouvelle émission qui s'intitule L'invité d'RTVFM. On revient juste après une pause musicale. À de suite.
Je commence le livre par la fin. J'ai le menton haut pour un rien. Mon œil qui perd, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment.
Prenez la parole avec votre émission L'invité d'RTVFM.
Et oui, vous êtes toujours sur RTVFM, toujours dans l'émission, dans votre toute nouvelle émission qui s'intitule L'invité d'RTVFM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le 102.2 et aussi sur internet sur rtvfm.net. Et je suis toujours avec nos invités qui sont toujours présents au studio. Jean-François Clapeau qui est toujours là.
Toujours là. Oui, toujours là.
Et Louis Rama qui est également toujours présent avec nous. Où là maintenant, on a parlé de Albert Cohen juste avant la petite pause musicale. Et là maintenant, vous allez nous lire parmi ces textes un extrait de « Au vous, frères humains ».
Voilà, « Au vous, frères humains hein. ». Voilà. Albert Cohen, donc, je parlais tout à l'heure de ce drame de son enfance, de cette rencontre de l'antisémitisme quand il avait 10 ans sur les trottoirs de Marseille, voyez-vous, voilà. C'est un homme, il faut savoir par ailleurs, qu'il a fait, c'était quand il était au lycée, c'était un ami de Marcel Pagnol. Ils avaient le même âge, ils sont rentrés ensemble au lycée Thiers, ils ont fait toute leur scolarité ensemble, ils ont été amis, et amis jusqu'à la fin de leur jour. C'était un chagrin pour l'autre quand l'un des deux est mort. Voilà. Et Albert Cohen, lui, il a fait toute une carrière dans les institutions, les grandes institutions internationales, et en particulier dans le BIT, le Bureau international du travail, qui est une des institutions de l'ONU. Et entre les deux guerres et après la guerre de 40, il a été un des plus grands responsables de la mise en place des lois sur les réfugiés, des droits internationaux des réfugiés. C'est un personnage qui touche à notre actualité, voyez-vous, de quantité de façon. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit passage, et j'en ai même prévu plusieurs, si vous voulez. Je vais vous lire un tout petit passage qui va vous montrer ce dont je parlais tout à l'heure, le moment où il est plein d'admiration pour ce camelot qui, soudain, va l'envoyer sur les roses. Hein.
Alors, je vous en prie, Louis Rama, vous pouvez commencer à lire le texte.
J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire, et je décidais d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur. Ainsi, le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant. Je pourrais rester longtemps à l'écouter du droit d'un client sérieux. Oh, et puis maman serait si contente. Jamais plus de tâches. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme, et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines, et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirais, et de panique, j'humectais mes lèvres. « Toi, t'es un youpin, hein ?» me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. « T'es un sale youpin, hein ? Je vois ça à ta gueule, hein ?» Voilà, j'interromps là, je vais pas aller plus loin. Ouais. Voilà. Et il conclut, évidemment, tu viens manger le pain des Français, etc. Ton père est dans la finance internationale, etc. Tous les lieux communs développés par l'antisémitisme au 19e siècle, voyez-vous, voilà. Et je vais vous lire un autre tout petit passage.
Je vous en prie. Après.
Vous me permettez ?
Oui, je vous en prie.
Et j'en ai encore un autre, mais c'est très bref. Alors ensuite, donc, il erre dans la ville, il se réfugie dans les toilettes de la gare, il veut prendre le train pour partir puisqu'on ne veut pas de lui. Il ressasse, il tourne toutes les idées dans sa tête. C'est tout à fait bouleversant. C'est très simple pour ceux qui écoutent. Venez écouter ce texte le samedi 10 février. C'est tellement simple et tellement juste et tellement bouleversant. On est tous touchés. Tous un jour, on s'est fait montrer du doigt par quelqu'un. Oh, toi, t'es un. Voyez-vous, bon, on a tous cette expérience. Lui, il la connaît de manière superlative, mais on la connaît tous. Je vous lis un tout petit passage.
Juste avant que vous lisez, c'est marrant parce que ce que vous décrivez, en fait, ça continue à se passer aujourd'hui. Donc, quelque part, il était un petit peu visionnaire.
Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi nous montons ce texte, nous voulons le faire entendre, parce qu'il explique. Il m'est arrivé des choses extraordinaires en donnant ce texte. Il m'est arrivé, à la fin, après l'avoir lu, d'avoir toute une salle qui reste dans un silence total, qu'on ne pouvant plus parler tellement ils étaient bouleversés parce qu'ils entendaient, et que je suis obligé de dire, bon, merci. Et à ce moment-là, ils ont pu applaudir. Et il m'est arrivé d'avoir un vieil ami qui viennent écouter et qui après tombent en larmes, en sanglots, en me disant « Mais oui, j'ai été antisémite !» Et qui soudain réalisaient que c'était un truc insupportable, que c'est de l'ordre du crime. Enfin, vous voyez, vous comprenez c'est un texte qui touche profondément les gens, aussi bien ceux qui sont victimes que ceux qui sont éventuellement auteurs de stigmatisation raciale, raciste, etc. Vous voyez ? Voilà. Je vous lis un tout petit passage.
Allez-y.
C'est un autre moment dans la nuit où il marche. Lorsque je revois une des photographies d'après le jour du camelot. Photographie toujours inquiète de moi, enfant, les yeux toujours étonnés, un peu hagards, la bouche toujours entrouverte un peu, comme en dénégation, comme muettement récusant une effrayante accusation, charnellement niant d'avance une culpabilité de moi-même inconnue. Lorsque je revois ce petit stupéfait, j'ai pitié. Non de moi, qui ne m'importe plus et qui vais bientôt en finir, non de moi, mais d'un doux enfant qui ne méritait vraiment pas ça. Si au moins vous pouviez décider de ne détester les Juifs qu'à partir de 16 ans, disons, hein, ça leur laisserait au moins un peu de bon temps. Et le, oui. Donc, après toutes ces errances et toutes ces réflexions qu'il a en lui, je vais vous lire un tout petit passage d'un moment absolument extraordinaire. C'est comment va se terminer cette errance de ce gosse dans la nuit à Marseille. Il va finir par rencontrer ses parents qui le cherchent. Sur le chemin du retour, marchant sous la pluie qui tombait maintenant et faisait sur le trottoir des petits clins d'œil tombés et désolés, tenant sa main contre la joue outragée, l'enfant rencontra sa mère et son père, qui revenaient pour la quatrième ou cinquième fois, échevelés, hagards, du commissariat de police, où, depuis des heures, faisant la navette entre la maison et le commissariat, ils étaient allés humblement demander si on avait des nouvelles de leur petit garçon disparu, et dont ils avaient chaque fois sangloté le signalement, un petit garçon si beau. De beaux cheveux bouclés, monsieur le commissaire. Il explique qu'ils ne vont pas manger le gâteau d'anniversaire, mais qu'ils vont aller, pas du tout, mais qu'ils vont au contraire se retrouver dans un lieu tout à fait intime de la famille. Les trois, donc le père, la mère, les trois ne s'assirent pas à la table ornée pour la fête des 10 ans, et ils allèrent dans la chambre du père et de la mère. Là, maîtrisant le vertige qui lui est resté toute la vie, l'enfant raconta à son père et à sa mère, mais il ne raconta pas tout. Il dit seulement que des gens avaient ri de lui et l'avaient chassé parce qu'il avait un visage juif. Alors, le père et la mère lancèrent un regard de remords sur le visage de l'enfant qu'ils avaient mis au monde, et ils baissèrent les yeux. Je revois ce moment. Mon père était assis sur son lit, ma mère était assise sur le lit d'en face, et sa petite main de peau trop fine tenait le pommeau de cuivre, et tous les trois, nous pleurions. De quoi réjouir un antisémite ?
J'ai une question, que ce soit à vous Louis Rama et également à vous Jean-François Clapeau. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais vous allez essayer. En tout cas, Albert Cohen, il a eu... une enfance assez compliquée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme, qu'est-ce que vous conseillez ?
Ah, si nous avions, je crois, la solution, ça serait formidable, mais je crois que...
Parce que c'est compliqué aujourd'hui.
Vu les décennies...
Il faut que les gens se parlent et s'écoutent. Il faut que la parole circule, que les rencontres se fassent. Le lieu le plus fort... pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, c'est l'enfance, c'est l'école. À l'école, les enfants se parlent, ils ne se voient pas avec des étiquettes infamantes. Ça se crée après, ça se crée progressivement. C'est le monde des adultes qui construit tout ça. Donc il faut absolument construire des écoles ouvertes à tous, ouvertes, et où on parle, et où on se parle, et où les enfants ont droit à la parole.
Ça passe aussi par l'éducation, non ?
Voilà, tout à fait. C'est essentiel ce que vous dites.
Oui, Jean-François Clapeau.
Oui, et effectivement, et si l'éducation nationale a mis en place cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, c'est bien, mais ce n'est pas une semaine par an. C'est au quotidien que cela doit se travailler. C'est les gestes insignifiants, enfin, banalisés du rejet de l'autre qu'il faut... sanctionner, où il faut être attentif. Il faut arrêter de banaliser les actions. On se laisse un petit peu envahir par tout cela, et je crois que la technologie, Internet, les réseaux sociaux amplifient tout cela. je ne suis pas un fanatique des réseaux sociaux, bon, on a des retours, on voit bien à travers comment se passent les relations entre les jeunes, on diffuse des fausses nouvelles, c'est la mode en ce moment de dire des fausses nouvelles.
Ouais.
Et je dirais, il y a un climat malsain et le rejet de l'autre est encore amplifié. Et ça va très vite parce qu'on s'aperçoit qu'on lance un message, des centaines de personnes le relaient.
Le drame des médias modernes, c'est que chacun n'écoute que ce qu'il veut écouter, est amené à s'enfermer dans une bulle, et donc les racistes parlent entre eux et s'auto-justifient les uns les autres, alors qu'il faudrait au contraire qu'il y ait des échanges. La parole, la rencontre. Et puis écouter la souffrance des autres.
Après, la meilleure solution, c'est certainement de faire de la prévention à ce sujet.
Bien sûr, c'est ce que je vous disais avec cette semaine. Ouais. C'est très bien, cette semaine mise en place. Mais c'est au quotidien que l'on doit faire cette prévention. Et surtout, je crois que la culture, amener les enfants à lire aussi des textes qui en parlent, même si c'est un petit peu ardu. C'est vrai que ce texte est difficile. Il faut l'entendre, mais ça doit amener une réflexion.
Bêtement, apprendre sans cesse, dès l'âge le plus précoce, à se mettre à la place de l'autre. C'est tout. Et la littérature, c'est ça. Et le texte, c'est ça. C'est donner des vies imaginaires comme si elles étaient les nôtres, voyez-vous, et se mettre à la place de l'autre sans cesse, et quel serait le retentissement en moi de ce que je suis en train de dire à l'autre.
Alors, je vais poser la question autrement, pourquoi c'est un tabou aujourd'hui ce sujet ?
Non, mais si on regarde bien, tous les jours dans l'actualité, il y a du racisme. Je dis l'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Le racisme, en général, on l'a tous les jours. Le racisme, c'est pas forcément uniquement par rapport à l'origine de l'autre, c'est par rapport à son appartenance aussi à une communauté ou une, comment dire, une communauté. C'est, j'allais dire, il fut un temps où les rouquins étaient très stigmatisés. Il y a toujours cette
malsain.
Malsain. Oui, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est d'échanger, de parler, de comprendre l'autre. Et là, nous sommes bien là-dedans, c'est aussi d'écouter les autres, de comprendre qui ils sont et ne pas avoir peur de l'autre. Parce que si on revient dans notre histoire, on a bien vu, je fais référence à l'excellente lecture qu'avait fait Bonheur de lecture avec les Ritals de Kavanagh, où on retrouve ce rejet de l'autre, et on trouve à chaque vague migratoire en France, ces rejets des autres.
Louis Rama voulait réagir ?
C'est vrai que il y a le danger quand il y a des tensions politiques considérables, en particulier au Proche-Orient, d'importer ces tensions-là et de les radicaliser. Hein. Et c'est vrai que toutes les questions de radicalisation contemporaine renforcent donc ce risque d'antisémitisme, de racisme, etc. Et il faut au contraire parler pour empêcher ou pour guérir de tous ces racismes et de tous ces radicalismes.
Alors juste, on va terminer parce que c'est déjà la fin de cette émission. Alors on rappelle, Albert Cohen, Où vous, frères humains, dont vous allez lire les textes, le Louis Rama, prochainement, le 10 février prochain.
Je n'ai pas dit une chose essentielle, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est une lecture qu'on donne à deux, donc un comédien-lecteur, à savoir moi-même, et un musicien, un contrebassiste, qui s'appelle Vincent Boza, et qui est un contrebassiste magnifique, et qui improvise au cours de la lecture un très grand nombre de fois, et il donne à tout ce texte aussi toute sa profondeur, j'ai envie de dire sa profondeur tripale, parce que la contrebasse, c'est un instrument qui nous touche au ventre, voyez-vous, voilà, et c'est absolument un moment magnifique, de musique et de littérature.
Nous invitons vos auditeurs à venir à la Boiserie le samedi 10 février à 17h pour entendre ce magnifique texte, où ils pourront aussi rencontrer les personnes de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP et d'Amnesty International, avec lesquels ils pourront échanger. Et je terminerai, et ensuite nous boirons le verre de l'amitié et de la fraternité à l'issue de cette représentation.
Mais en tout cas, Jean-François Clapeau, merci d'être.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci d'être venu avec nous dans les studios d'RTVFM. Et puis, on remercie également Louis Rama d'être passé également dans nos studios d'RTVFM. Et bien, on vous souhaite beaucoup de succès pour cet événement le 10 février prochain. Alors, on peut peut-être rappeler les tarifs juste avant de se quitter.
Oui.
Les tarifs à 8 euros et 6 euros et gratuits pour les moins de 16 ans qui
souhaitent
venir.
Oui, nous avons
souhaité
le faire justement gratuit pour les moins de 16 ans pour permettre aux adolescents de venir sans contrainte financière écouter ce magnifique texte.
En tout cas, on vous remercie vraiment une nouvelle fois d'être passé au micro d'RTVFM et puis on vous souhaite un bon succès pour cet événement qui aura lieu, je le rappelle, le 10 février prochain. Merci à vous de nous avoir écoutés sur RTVFM et puis on se retrouve très vite sur cette antenne sur RTVFM sur le 102.2. À bientôt.